Très belle journée à vous, très bon dimanche. Il est 13h.
France Info, 10h, 14h. Jules de Kiss.
L'info, c'est avec Soizic Bourg. Bonjour Soizic.
Bonjour Jules, bonjour à tous.
À la une, cette question, comment bien utiliser les doses de vaccin?
Eh bien, jusqu'à la dernière goutte. Pas question de gâcher ne serait-ce qu'un millilitre du précieux liquide. Liquide qui sera finalement moins en retard que prévu. Le couvre-feu à 18h en place depuis hier soir, plutôt bien respecté. On ira dans le Cotentin. À la veille du début de la campagne vaccinale élargie aux 75 ans et plus, le gouvernement veut rassurer. Les retards de livraison du vaccin de Pfizer-BioNTech n'auront pas d'impact sur le calendrier. Le rythme des 500 000 doses par semaine sera repris dès le 25 janvier et même accéléré à la mi-février, dit sur France Info le secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune. Mais dans la pratique, comment ça se passe? Les vaccins ne se conservent que quelques heures après la première injection. Alors les soignants font tout pour ne perdre aucune goutte du précieux liquide, comme à l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement de Paris, Daniel Messager.
Le docteur Hanchou, médecin volontaire pour vacciner, avait strictement rempli l'agenda pour ne pas perdre de dose, mais une personne ne s'est pas présentée, alors il restait une dose inutilisée.
Afin de ne pas perdre cette dose, nous avons des listes d'urgence, des gens qui n'avaient pas pu prendre rendez-vous et que l'on appelle. J'ai une dose qui va se perdre, venez rapidement vous faire vacciner. On a eu l'occasion d'avoir une personne qui est au contact direct des malades et qui n'avait pas rendez-vous pour se faire vacciner et qui a pu bénéficier de cette dose qui aurait été perdue sinon. Ça aurait été quand même stupide.
Ne pas perdre de dose en utilisant aussi une sixième dose. Les flacons sont prévus pour vacciner 5 personnes. Mais la rareté du sérum pousse à tout récupérer. Mathieu, infirmier.
Il y a toujours plus dans les flacons que ce dont on a besoin. C'est par sécurité. Vu qu'on n'en a pas beaucoup, on utilise même la dose de sécurité.
Des seringues que Mathieu prépare à l'avance en utilisant aussi cette précieuse sixième dose.
Là, je prépare les seringues que je vais pré-remplir avec le vaccin. Je mets l'aiguille qui servira à l'injection. Une fois que j'ai fini de préparer mes 6 seringues, je remets tout au frigo en attendant la venue du patient. Et à ce moment-là, je sors la seringue du frigo et j'injecte.
À l'intérieur du frigo, qui doit faire moins de 4 degrés, les seringues peuvent être conservées 6 heures.
Et plus de 400 000 personnes ont été vaccinées dans l'Hexagone. L'Espagne, de son côté, commence déjà à administrer la deuxième dose du vaccin, d'abord en Catalogne et dans 6 autres régions. Le vaccin qui pourrait devenir un sésame, peut-être pour voyager. L'idée, en tout cas, est au menu du Conseil européen la semaine prochaine. C'est la Grèce qui a appelé mardi la Commission à mettre en place ce passeport vaccinal pour relancer l'industrie touristique. Pour Paris, c'est clair, c'est non. L'exécutif dénonce un débat prématuré.
En attendant, la circulation du virus reste élevée. Et pour lutter contre sa propagation, tout le monde chez soi à 18h.
Mais le couvre-feu généralisé est entré en vigueur hier soir. Des contrôles ont eu lieu un peu partout. Et à Valognes, près de Cherbourg dans le Cotentin, la mesure est globalement bien respectée. Le capitaine Varenne Goupil se félicite.
On observe que dès le début, les gens respectent. Bon, là, il y a encore 2-3 voitures, il y a encore 2-3 retardataires. Mais à 18h, les rues se sont vidées de manière automatique. C'est pas nouveau parce que depuis le début, dans le Cotentin, les gens sont plutôt respectueux du couvre-feu. Parfois, les gens s'arrêtent et nous demandent est-ce que l'attestation employeur, c'est la même qu'avant ? Voilà, ce genre de questions qu'ils ont. Ce soir, c'est la pédagogie. Et puis en revanche, bon, les autres soirs, on fera plus de pédagogie, quoi. Voilà, il faudra respecter les règles. On va être visible sur les routes, surtout les premiers temps, histoire de montrer un peu à la population que maintenant, on est passé à 18h et qu'il s'agit de respecter les règles.
Voilà, et ceux qui n'ont pas respecté les règles, en revanche, ce sont les 200 fêtards rassemblés pour une soirée clandestine à Saint-Martin-d'Air, dans la banlieue de Grenoble. 3 suspects sont en garde à vue. Une enquête est ouverte. Les contrôles aux frontières devraient en tout cas se renforcer. Le gouvernement le confirme. La Martinique a d'ores et déjà durci les conditions d'accès à son territoire. Un isolement de 7 jours obligatoire en plus d'un test PCR négatif. Toujours dans les Outre-mer, à noter qu'un premier cas de variant du Covid-19 apparu en Afrique du Sud a été détecté à La Réunion sur un patient qui venait des Comores. La crise sanitaire qui continue de faire des dégâts sur le plan économique. La dette publique restera supérieure à 100% du PIB pendant 10 ans, selon une estimation de la Cour des comptes. Elle devrait même s'être cette dette gonflée jusqu'à 122% cette année. Conséquence, eh bien, des nouvelles dépenses du gouvernement pour maintenir à flot l'économie et les secteurs en difficulté. Parmi ces secteurs, celui de la montagne. Les remontées mécaniques sont toujours fermées et les professionnels s'inquiètent. Dans une lettre adressée à Jean Castex, le PDG du Club Med demande la réouverture des stations pour les vacances d'hiver qui commencent le 6 février.
13h09, on vous retrouve dans quelques secondes, Soizic.
France Info, 10h, 14h. Jules de Kiss.
Après le fil info à 13h10, Soisigbourg.
La mise en place d'un passeport vaccinal est prématurée. Déclaration sur France Info du secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune. 6 Français sur 10 y sont favorables. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen aussi. Le couvre-feu à 18h est entré en vigueur hier soir, mais ça n'a pas découragé les fêtards. 200 personnes réunies à Saint-Martin-d'Air dans la banlieue de Grenoble. 3 ont été interpellés et placés en garde à vue. Parallèlement, la campagne de vaccination grand public avec une première phase pour les 75 ans et plus débute demain. Les lieux culturels sont toujours fermés. Une clause de revoyure a été fixée par le gouvernement mercredi prochain. Mais la ville de Bourges prend déjà les devants et propose de servir de lieu d'expérimentation pour une réouverture progressive en retravaillant les protocoles sanitaires avec un calendrier échelonné. D'abord, rouvrir les musées, puis les cinémas et enfin les théâtres.
France Info. France Info, 10h, 14h. Jules de Kiss.
Dans un instant, le fil info à 13h20, Soisigbourg.
3 personnes en garde à vue interpellées à Saint-Martin-d'Air dans la banlieue de Grenoble au lendemain d'une soirée clandestine qui a rassemblé 200 personnes, 2 policiers sont légèrement blessés. Une soirée qui avait lieu en plein couvre-feu généralisé à tout le territoire. Hier, tout le monde chez soi à 18h, exception pour rentrer du travail et aller chercher ses enfants, notamment. À Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, les services municipaux à la petite enfance restent ouverts aux horaires habituels, donc jusqu'à 18h45. Clément Beaune veut rassurer sur l'approvisionnement des doses de vaccins en France. Les retards de livraison n'auront pas d'impact sur la campagne de vaccination. Le rythme sera repris dès le 25 janvier, dit sur France Info le secrétaire d'État aux affaires européennes. C'est demain que les 75 ans et plus vont pouvoir commencer à se faire vacciner alors que la France a maintenant dépassé les 70 000 morts du Covid.
France Info.
Merci d'écouter France Info en ce dimanche à la seconde près. Il est 13h30. L'info avec vous, Victoria Coussa.
3 suspects en garde à vue après la soirée clandestine de Saint-Martin-d'Air près de Grenoble. Parmi eux, l'organisateur présumé de la fête de la nuit dernière avec 200 participants dans un hangar en plein couvre-feu renforcé. L'événement s'est terminé par des violences, 4 blessés dont 2 policiers et une quarantaine de verbalisations. Le début demain de la vaccination contre le Covid-19 du grand public en France, les plus de 75 ans d'abord, ceux qui ne sont pas en EHPAD, soit 5 millions de personnes et ceux qui sont à risque à cause d'un cancer ou d'insuffisance rénale. Toujours le débat autour du passeport vaccinal. 6 Français sur 10 veulent rendre obligatoire cette attestation qui prouve qu'on est vacciné avant de monter dans un avion. Résultat d'un sondage IFOP pour Le Parisien aujourd'hui en France. Un débat prématuré, juge sur France Info Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes. Fini la foule de vacanciers en Martinique. L'île des Caraïbes va imposer dès demain un isolement de 7 jours à tous ceux qui s'y rendent, peu importe d'où ils viennent, en plus d'un test négatif au Covid-19.
Eh bien voilà qui est parfaitement complet. Merci beaucoup Victoria Coussa. Nous en venons maintenant à ce sondage très intéressant publié aujourd'hui à la une du Parisien, sondage IFOP, qui révèle qu'une majorité de Français sont favorables à la mise en place d'un passeport vaccinal. Passeport qui permettrait aux personnes immunisées contre le Covid-19 d'accéder à certains lieux, à certaines activités. Alors que la présidente de la Commission européenne, par exemple, l'appelle de ses voeux, Ursula von der Leyen, ça pourrait permettre son loyer aux Européens de voyager. Eh bien, le gouvernement français juge, lui, le débat bien prématuré. Position rappelée clairement ce matin sur France Info par Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes.
Nous sommes très réticents à cette idée. De quoi parle-t-on exactement? Si on dit un passeport, un papier, un document qui vous autorise, en l'occurrence, par exemple, à voyager en Europe, je crois que c'est un débat qui est très prématuré. D'abord, on sait que le vaccin est sûr scientifiquement, qu'il a des effets bénéfiques. On ne sait pas encore tout son impact sur la transmission du virus. Et donc, il faut quand même faire la clarté complète sur ce point. D'autre part, on est dans une phase partout en Europe, pas seulement en France, de montée en puissance de la campagne de vaccination. Pour l'instant, vous le savez, il y a quelques centaines de milliers de personnes dans chaque pays, en Allemagne, en Italie, en France, qui sont vaccinées, plutôt les personnes les plus âgées, les plus vulnérables. Tant que vous n'êtes pas rentré dans une phase grand public, ce qui arrive plutôt au printemps, eh bien je crois que dire aux gens votre activité est limitée à cela alors qu'on n'a pas encore l'accès généralisé au vaccin, ne marche pas.
un passeport vaccinal. Quelle utilité médicale ? Nous allons voir cela avec notre invité, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon à Paris. Bonjour Gilles Pialou.
Bonjour.
Vous vous êtes exprimé sur ce point-là, sur cette question du passeport vaccinal en décembre, quand des députés de l'UDI ont proposé cette idée de passeport. Vous jugiez que c'était trop prématuré. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Oui, enfin, on peut être pour et considérer que c'est prématuré, c'est pas antinomique. C'est prématuré. Et d'ailleurs, l'OMS s'est exprimé là-dessus, mais il y a des arguments qui sont fallacieux dans ce que j'entends, y compris par le secrétaire d'État aux affaires européennes. Puisqu'il y a deux arguments, et l'OMS aussi les reprend. Il y a l'argument de l'insuffisance de la couverture vaccinale. Ce qui fait effectivement que c'est prématuré de mettre la charrue avant les bœufs et de dire vous allez avoir un passeport si vous êtes vacciné. Ça, je le comprends parfaitement. Augmentons considérablement la vaccination et on discutera du passeport vaccinal. Moi, je peux parier que la méfiance instinctive des Français va là aussi, comme on l'a vu précédemment, se transformer en acceptation. Pourquoi ? Parce que, si je puis me permettre, ce sont les entreprises qui vont s'en emparer. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va être vécu comme coercitif, ça va être vécu comme une possibilité de retour à la vie d'avant.
Et d'un point de vue sanitaire, Gilles Pialou, est-ce que cela a un sens ? Faut-il par exemple qu'il soit d'abord parfaitement établi qu'un vaccin prémunisse contre la transmission du virus ? Ou alors pas besoin ?
Alors voilà, exactement le deuxième point qui est souvent avancé. Et souvent avancé, il faut inverser la preuve de la charge, comme on dit. C'est-à-dire que effectivement, on manque de preuves cruciales, à savoir si les personnes vaccinées transmettent ou non le virus. Mais attendez, on va le savoir, et il y a quand même des arguments sur quelques centaines de personnes dans les essais Moderna en faveur d'une diminution de la transmission. Il y a des arguments sur des modèles animaux, sur des primates, et puis sur des modèles de souris. Et donc, on va avoir ces données-là. Il faut faire comprendre aux gens qui nous écoutent que les essais, le design des essais, ont utilisé des éléments cliniques. C'est-à-dire que c'est pour aller plus vite, pour un moindre coût des essais. Et dans l'histoire des vaccins, il y a très peu de vaccins qui ne protègent pas contre la transmission. Il faut aller chercher le vaccin polio oral. Il y a un siècle.
Les questions médicales font toujours écho à des questions éthiques. Est-ce que donner plus de droits aux personnes vaccinées serait une atteinte à la liberté de vos patients de se faire vacciner ou pas ?
Mais moi, depuis que je m'exprime là-dessus, je lutte contre cette obsession liberticide. Mais vous ne faites pas changer de ligne.
Vous êtes là pour
contre le masque, contre le couvre-feu. Je veux dire, c'est le virus. Quand vous voyez le côté liberticide des variants qui arrivent, excusez-moi, mais je trouve ça complètement déplacé. Les gens vont s'approprier. Est-ce que les gens trouvent que vous qui voyagez, du temps où vous voyagez, est-ce que le certificat de vaccination jaune pour la fièvre jaune est vécu comme un document liberticide? Vous voulez aller dans un pays où la fièvre jaune est obligatoire, après c'est les pays qui décident. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec tout le monde, qu'il y a une couverture vaccinale qui doit être importante. Mais ça ne sera pas liberticide. Et il faut qu'il y ait un aspect technique qui protège les individus. Par exemple, on voit pas un fichier, évidemment qu'il faut pas un fichier central. Il faut un code QR, quelque chose qui soit pas trop falsifiable, etc. Et puis autre chose aussi, les Français vont se l'approprier, et puis après ça empêchera pas de maintenir les mesures barrières si vous allez au théâtre et qu'on vous demande votre passeport au théâtre. Moi ça me choque pas. On est dans une période d'incertitude, et vous comprenez bien que cette incertitude, elle doit plaider en faveur à la fois de la protection du plus grand nombre, mais aussi de la réouverture de certaines activités, les voyagistes, l'événementiel, les loisirs, le sport.
Merci beaucoup Gilles Pialou. on entend votre avis avec plutôt positif sur la mise en place de ce passeport vaccinal, même s'il
y a le temps aux choses.
Voilà, des éléments à prendre en compte et évidemment notamment la disposition des doses de vaccins. Merci d'avoir répondu aux questions de France Info, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris.